Alors nous continuons à considérer certains personnages de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons considérer ensemble Jérémie. Jérémie, le prophète solitaire. Ou encore le prophète qui pleure. Il y a certains points de mon message que j'ai déjà mentionné ici dans d'autres messages, mais il est bon de répéter certaines choses. Paul dit, je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses, car cela vous est salutaire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, donc, dans Jérémie. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Amen. À la mort du roi Salomon, le royaume unifié sous David et Salomon, malheureusement, fut divisé en deux royaumes rivaux. Celui du nord, Israël, comprenant 10 tribus, et celui du sud, Juda, comprenant la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qui restèrent fidèles à la maison de David. À la naissance de Jérémie, vers 627 avant Jésus-Christ, il y a belle lurette que les habitants du royaume du Nord, du royaume d'Israël, avaient déjà été emmenés en captivité par les Assyriens sous Salmanassar, vers 722 avant Jésus-Christ. Jérémie est né donc dans le royaume du Sud, à Anatote, à quelques 5 kilomètres au nord de Jérusalem. Il a vécu et prophétisé sous les règnes des 5 derniers rois de Juda. Alors, c'est qui ces rois? Il y a Josias, Joachaz, Joachim, Joachin, et Sédécias. Jérémie était aussi un contemporain des prophètes Sophonie, Habacuc, Daniel et Ézéchiel. Il a prêché la repentance et le retour à Dieu pendant 40 ans. Donc c'était un ministère assez long. Il a prêché pendant 40 ans. Il a prophétisé la destruction de Jérusalem et la captivité qui durerait 70 ans. Il l'a mentionné au moins deux fois, dans Jérémie 25, 12 et Jérémie 29, 10. Il a aussi prophétisé la restauration d'Israël et l'établissement d'une nouvelle alliance de Dieu avec son peuple. Alliance qui serait écrite non pas sur de la pierre, mais sur leur cœur. Comme je l'ai dit, il est appelé le prophète solitaire parce que Dieu lui défendit de se marier et d'avoir des enfants. Il est aussi appelé le prophète qui pleure parce qu'en effet, il a beaucoup pleuré sur son peuple à cause de ses péchés et des malheurs qui ont suivi suite à tous ces péchés. Alors maintenant, que pouvons-nous apprendre de la vie de Jérémie, de cet homme de Dieu? La première chose que nous voyons au verset 5 que nous avons lu, l'Éternel lui dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu connaissait Jérémie avant même sa naissance. Avant même, que Jérémie ait conscience de quoi que ce soit, eh bien Dieu l'avait choisi. Nous pouvons dire aussi que Dieu, il nous connaît chacun. Amen. Il nous connaît avant tout le monde, avant quiconque. Et il avait déjà un plan pour nous. Et la même chose avec Jérémie. Il dit: Jérémie, je te connais. Donc Dieu, il nous connaît, il n'a pas besoin de mener enquête sur nous pour savoir qui nous sommes, mais il nous connaît. Et ça, c'est rassurant. Lorsque parfois, nous pouvons être découragés ou nous sentir inadéquats, incompétents, Dieu, il nous connaît. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a un plan pour chacun de nous. Amen. On voit plusieurs serviteurs de Dieu, même avant leur naissance, il les a choisis. On a parlé de Samuel la dernière fois. On pourrait mentionner aussi Samson. On pourrait mentionner David. On pourrait mentionner Jean-Baptiste, comment Dieu même a planifié leur naissance. On pourrait mentionner aussi Paul. Dieu nous connaît. Et il nous aime. Il nous aime tels que nous sommes. Bien sûr, c'est lui qui a un plan pour nous transformer. Amen. Il nous aime tels que nous sommes. Mais il ne veut pas que nous demeurions tels que nous sommes. Amen. Alors, avant même sa naissance, Dieu connaissait Jérémie et Dieu l'avait consacré prophète des nations. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous pouvons voir, c'est que lors de l'appel de Jérémie, Jérémie se sentait inapte, inadéquat pour la mission. Mais Dieu a promis d'être avec lui. Et quelqu'un a dit un jour: Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Amen. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les appelés. Donc, peu importe qui tu es, le Seigneur a un plan pour toi et c'est lui qui te qualifie pour cette tâche, pour cette mission à laquelle il t'a appelé. Et donc, c'est ce que Dieu dit à Jérémie. je te connais. C'est moi qui t'ai créé. Donc, ne présente pas d'excuses. J'ai une mission pour toi et ne t'inquiète pas, c'est moi-même, eh bien, qui vais te former, je vais te qualifier pour la tâche à laquelle tu es appelé. Donc, je pense que nous pouvons nous rassurer lorsque le Seigneur nous appelle à une mission et on peut dire, ah, cette mission, elle est énorme. Comment vais-je y arriver? Eh bien, c'est en comptant sur l'aide du Seigneur. Je pense que le Seigneur fait exprès que, de sorte que nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, sur nos propres capacités mentales, physiques ou autres, mais de s'appuyer sur lui et sur lui seul. Et c'est Dieu lui-même qui a tracé le plan. Et donc ce plan-là, nous devons suivre les instructions du Seigneur pour l'exécuter. C'est comme Dieu avait donné instruction à Moïse pour construire le tabernacle. Je ne sais pas si vous avez lu ces passages où Dieu donne toutes les instructions minutieusement à Moïse. Voilà comment tu vas construire le tabernacle. Et il lui dicte même les matériaux qu'il faut utiliser. Il lui donne les dimensions, la couleur, l'emplacement. Donc Dieu donne toutes les instructions nécessaires pour construire ce tabernacle. Et aussi longtemps que Moïse suivait ces instructions, eh bien, il réussirait. Et donc, je pense que pour nous, c'est la même chose aussi. Dieu a un plan pour nous. C'est vrai, ça peut paraître énorme, mais aussi longtemps que nous suivons ses instructions, aussi longtemps que nous suivons, nous nous laissons guider par son Esprit Saint, eh bien, nous allons y arriver. Amen. Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et donc, Dieu a un plan pour nous, mais ce plan-là, il nous faut l'exécuter avec l'aide de son Esprit Saint. Et c'est lui qui trace les plans, les contours de tout. Et donc, Dieu dit à Jérémie, ne t'inquiète pas, je te connais. Avant même que tu sois né, je te connaissais. Je te connaissais avant même que tu fusses sorti du sein de ta mère. Et déjà là, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu nous connaît et il a un plan pour chacun de nous. La troisième chose que nous voyons, c'est que lors de l'appel de Jérémie, Dieu a promis à Jérémie de le délivrer de tous ses problèmes et non pas de l'en épargner. Hein, écoutez bien, Dieu a promis à Jérémie de le délivrer de tous ses problèmes et non pas de l'en épargner. Écoutez ce que dit l'Éternel. Verset 7. On va lire à partir du verset 6. Je répondis, « Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est vrai, ils vont s'opposer. Et effectivement, ils vont s'opposer à Jérémie. Jérémie aura beaucoup de difficultés. Et si on devait considérer les difficultés eh bien, qu'a rencontré Jérémie, humainement parlant, on ne peut pas dire que la vie de Jérémie était un succès. Hein, si on devait considérer le succès comme on le considère dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire fixer soi-même ses objectifs, atteindre ses ambitions personnelles, acquérir la sécurité financière ou la richesse, acquérir la gloire, le prestige, le pouvoir, la faveur des hommes, eh bien, Jérémie était loin du compte. Pendant 40 ans, Jérémie a prêché la repentance et l'imminence du jugement si le peuple ne se repentait pas. Qu'est-ce que cela a donné? Pas grand-chose. À part le roi Josias, le tout premier roi pendant le ministère de Jérémie, à part le roi Josias, qui était le seul roi bon parmi tous les autres, eh bien, aucun des autres rois n'a écouté Jérémie. Pendant tout son ministère, eh bien, tout le monde l'a ignoré, rejeté et même persécuté. Le roi Joachim brûla un des livres de prophétie de Jérémie. On peut voir ça dans Jérémie 36, verset 23. On va aller à partir du verset 22. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était au 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, et il fut entièrement consumé. Vous voyez quel mépris que le roi Joachim avait pour Jérémie. Donc, Jérémie était méprisé, il était rejeté, on a brûlé un de ses livres de prophétie. Il a été rejeté par les gens de sa ville natale, Anatot. Jérémie 11, versets 19 à 21. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Attendez, c'est bien. Oui, 19, oui. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anatot qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel où tu mourras de notre main. Voilà, les gens de sa propre ville. Il était rejeté aussi par sa famille. Juste quelques versets plus loin, Jérémie chapitre 12, verset 6. Écoutez, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Donc sa propre famille était traître envers lui. Il était aussi rejeté, attaqué par les faux prêtres et les faux prophètes. Jérémie 20, versets 1 et 2. On pourrait dire ses faux collègues. Pashur, fils d'Immer, sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser ces choses, et Pashur frappa Jérémie, le prophète, et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Chapitre 28. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le cinquième mois de la quatrième année, Anania, fils d'Azur, le prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, « Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. » Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Et Jérémie le prophète s'en alla. Après que Anania le prophète eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, « Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à la place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. » Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. On voit que Jérémie trouva de l'opposition partout. Dans sa ville natale, dans sa propre famille, et même parmi ses collègues prophètes, en fait, qui étaient des faux prophètes, des faux prêtres, et qui essayaient de détourner ce qu'il disait, qui annonçaient des choses contraires, qui annonçaient de fausses assurances au peuple. Et on peut dire aussi qu'il avait aussi des problèmes avec ses propres amis. Jérémie 20, verset 10. Il dit, « Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. » Ah non, pardon, c'est pas ça. C'est verset, je lisais le mauvais chapitre. Chapitre 20, verset 10. « Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, observe si je chancelle. Peut-être se laissera-t-il surprendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. » Opposition partout. C'est très grave quand même ses propres amis. Chapitre 26, verset 8. « Et comme Jérémie achevait de dire tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire à tout le peuple, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant « Tu mourras ». Quelle chose terrible! De l'opposition partout. Et cependant, malgré l'opposition, malgré les persécutions, malgré les moments de découragement et de déprime même, Jérémie tint bon. Quoique souvent seul, il demeura fidèle à Dieu, déclarant sans crainte et sans compromis son message. Même s'il a dû pleurer bien des fois sur la méchanceté et le malheur de son peuple, il demeura ferme, fidèle à Dieu. Et c'est pour cela que Jérémie est un héros. Il demeura ferme. Son message, c'était « Si vous ne vous repentez pas et si vous ne revenez pas à Dieu, il va vous punir. Vous serez déportés en exil et Jérusalem sera détruit. » Et puisque le peuple a persisté dans son entêtement, c'est ce qui s'est passé du temps même de Jérémie. L'exil et la destruction de Jérusalem. Ce qui est décrit dans le chapitre 39. Mais Jérémie était aussi le prophète qui a prophétisé le retour d'exil après 70 ans et la restauration du peuple de Dieu. Il n'était pas simplement un prophète négatif pour être négatif. Non, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont négatifs rien que pour être négatifs. Mais non, il a prêché le message de Dieu. Dieu lui dit et lui, il parle. Et il ne fait pas de compromis avec le message que Dieu lui a donné. Jérémie a vécu dans une époque de déclin et de chaos politique, social, économique, moral, spirituel. Et Jérémie souffrait de tout ce qu'il voyait. Et Dieu lui disait d'aller et de prêcher la repentance et d'inviter le peuple à se repentir. Mais malheureusement, le peuple ne voulait pas se repentir. Et Jérémie disait, si vous ne vous repentez pas, eh bien, la catastrophe va arriver. Et comme le peuple persistait donc, dans leur péché, eh bien, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et Jérémie a tenu bon, malgré l'opposition de sa ville natale, de sa famille, de ses amis, de tous les rois, en fait, de pratiquement tous les rois à qui il a prêché, il est demeuré ferme. Mais comme je dis, il a aussi prêché et prophétisé qu'après 70 ans, il y aurait le retour d'exil et aussi la restauration du peuple de Dieu. Et c'est lui qui disait, on ne dira plus celui qui nous a sortis hors d'Égypte, c'est ce Dieu-là qui a fait cela, et il a dit, celui qui nous a ramenés de l'exil, c'est ce Dieu-là qui a fait ça. Il a prophétisé l'établissement d'une nouvelle alliance de Dieu avec son peuple. Alliance qui sera écrite non sur de la pierre, mais sur leur cœur. Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseigna plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonne de plusieurs manières, comme une source d'eau vive, dont on a parlé déjà tout à l'heure. » Jérémie 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Ici, ça c'est déjà en prélude à Jésus-Christ qui allait dire. Donc, tous ceux qui croiraient en lui, donc, jailliront une source d'eau vive. Il y a aussi cette autre prophétie. Jérémie 8, 22. N'y a-t-il point de baume en Galaade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie parle du baume de guérison. Le baume de Galaade, c'est Jésus, bien sûr. Celui qui guérit. Et il parle aussi dans Jérémie 23, 4, 5, 6. On va voir Jésus qui est décrit comme le bon berger, le germe juste et l'Éternel, notre justice. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il ne manquera aucune, dit l'Éternel, en opposition à tous les autres faux bergers qui profitaient du peuple. Verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Alléluia. Donc, Jérémie n'était pas simplement un prophète négatif. Mais il a simplement proclamé ce que l'Éternel lui disait. Amen. Il prêchait tout ce que l'Éternel lui disait. Il n'a pas fait de tri à ce que l'Éternel lui disait. Et il n'a pas fait de compromis à ce que l'Éternel lui disait. L'Éternel lui dit, prêche la repentance. Il a prêché la repentance. Et l'Éternel lui avait promis, il dit, écoute, il y aura de l'opposition, mais je serai avec toi. Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aurait pas de l'opposition, qu'il n'y aurait pas de persécution, qu'il n'y aurait pas d'incompréhension, qu'il n'y aurait pas de moquerie. Il y aura tout ça. Mais je te connais. Et c'est moi qui t'ai appelé. Ah, ça c'est ce qui est extraordinaire. C'est lui qui nous a appelés. Jésus dit, vous ne m'avez pas choisi, je vous ai choisi. Extraordinaire. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui a posé sa main sur nous. Donc nous n'avons pas à avoir peur. L'Éternel nous connaît mieux que quiconque, mieux que nous-mêmes. Et cela avant même notre naissance. Ce n'est pas par après qu'il connaît. Ce n'est pas après avoir mené des enquêtes. Mais il nous connaît même avant. Et il nous a choisis. Et avant même notre naissance, il a un plan pour nous. Une mission pour nous. Donc nous n'avons pas à avoir peur. C'est lui qui nous qualifie. C'est lui qui nous conduit pas à pas de victoire en victoire. Et c'est lui qui nous transforme de gloire en gloire par son Esprit Saint. Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura de l'opposition. Oui, il y aura des incompréhensions. Oui, il y aura des rejets, des persécutions. Mais nous n'avons pas à avoir peur. La victoire est garantie. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Le succès selon Dieu, ce n'est pas atteindre ses ambitions personnelles. La sécurité financière, le pouvoir, la faveur des hommes. Mais c'est la fidélité et l'obéissance à Dieu. Être fidèle, être là où le Seigneur veut que nous soyons. Faire exactement ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Être au poste. Lorsque le Seigneur va revenir, qu'il nous trouve au poste. Qu'il nous trouve actifs. Alléluia. Et c'est cela le véritable héros de Dieu. Celui qui est fidèle, obéissant, malgré tout. Malgré vent et marée. Alors j'aimerais terminer avec ce passage, ce beau passage qui se trouve dans Lamentation. Quand on dit Lamentation, ça ne dirait pas qu'il y aurait un si beau passage dans Lamentation. Mais pourtant, lisons dans Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 19. Lamentation, c'est juste après Jérémie. Donc ici, Lamentation, ça a été écrit après la chute de Jérusalem, hein, après la destruction de Jérusalem. Jérémie a vu tous les malheurs qui se sont accablés sur Jérusalem. Et il écrit ce beau poème. J'ai oublié d'apporter ma Bible en hébreu. Il faut voir ce passage, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, il faut voir ce passage en hébreu. Cette poésie extraordinaire. Savez-vous que chaque ligne... Dans l'hébreu, il y a 22 lettres. Hein? OK? Et chaque ligne commence avec une lettre de l'alphabet hébreu. Donc la première ligne, Aleph, Beta, je mélange l'hébreu avec le grec. Aleph, Bet, Gimel, etc., etc. Et chaque ligne correspond donc vraiment à une lettre de l'alphabet hébreu. Et c'est ainsi pour tout le livre, pour toute Lamentation. C'est extraordinaire. Alors lisons cela, mais malgré que ce n'est pas en hébreu, mais il y a toute la beauté de ce texte. Il y a non seulement le fond, mais il y a aussi la forme. C'est extraordinaire. Notre Dieu, il est grand. Hein? C'est un Dieu d'ordre. Un Dieu de précision. Extraordinaire. Alors, lisons. Lamentation 3, versets 19 à 26. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, il y a une détresse extraordinaire là. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et là, ça change. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Est-ce que nous espérons dans le Seigneur? L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Est-ce que nous le cherchons? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia! Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Laissez-les parler. Laissez-les se moquer. J'espère en l'Éternel. Je cherche l'Éternel. Lui, il me connaît. Il connaît mes motivations. Il connaît mes désirs. Il connaît mes soupirs. Il connaît mes aspirations. Il me connaît. Il m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi, il m'a choisi. Je ne me suis pas appelé, il m'a appelé. Donc, quand il y a de l'opposition, il dit, ah, écoute, tais-toi. Ok. L'Éternel connaît. L'Éternel connaît. Et c'est lui qui combat pour nous. Il nous délivrera de tout, de toutes nos difficultés. C'est lui qui nous donne la victoire. Il nous connaît, même avant notre naissance. Et c'est lui qui nous a appelés. Il ne va pas nous laisser seuls. Il ne va pas nous laisser seuls. Il sera avec nous, du début à la fin. Et nous, plaçons notre confiance en lui. Disons comme Jérémie. Que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais ses bontés, ses compassions se renouvellent chaque matin. Amen. Remercions le Seigneur.